Radio Grand Ciel présente Histoire et Mémoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois Pierre Lucas, adjoint au maire de Yèvre, qui va évoquer pour nous l'église, son église, une église du XIIe siècle qui a d'ailleurs subi des transformations au XVe et au XVIe siècle. Monsieur le maire adjoint, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes adjoint au maire depuis combien de temps ?
Alors, je suis au conseil municipal depuis 2001 et troisième adjoint en 2008 et depuis le dernier mandat en 2014, premier adjoint.
Très bien. Donc, vous connaissez la commune par cœur.
Je ne suis pas natif d'Yèvre, mais bon, j'en connais quand même suffisamment en tant qu'élu, oui. En tant que membre d'association et puis aussi en tant que, entre guillemets, guide de l'église.
Voilà. Et bien sûr, nous avons beaucoup de chance parce que cette église est très belle et nous allons être guidés au cours de cette émission par Pierre Lucas, pour visiter cette très belle église. Alors tout d'abord, parlez-nous de votre commune.
Alors, Yèvre, c'est un petit village, entre guillemets, qui se situe à côté de la ville de Broux.
Oui.
Donc, dans le triangle Nogent-le-Rotrou, Châteaudun, Chartres.
Voilà. Oui.
Voilà, à peu près au centre. C'est une commune de 1700 habitants, à peu près, en 1700-1750.
D'ailleurs, j'ai remarqué que la population avait augmenté au cours
très légèrement. Enfin, c'est
déjà, c'est bien qu'elle n'ait pas baissé.
Oui, suivant les recensements, ça varie à quelques unités. Elle a la particularité d'être une des plus étendues du département, plus de 4000 hectares.
Oui.
Et la moitié de la population se situe dans le bourg et l'autre moitié en campagne, puisque nous avons 70 hameaux et fermes dans tout le territoire.
Donc la population rurale.
Population essentiellement rurale, oui, effectivement. Donc c'est l'agriculture qui a une grande place dans notre commune. Il y a un petit peu d'industrie, beaucoup d'artisanat.
De l'élevage
Très peu d'élevage maintenant.
Peu d'élevage.
Ça, c'est la modernisation qui a fait que l'élevage a pratiquement pas totalement disparu, mais il n'y a plus qu'une seule ferme laitière, par exemple.
Ah oui, c'est ça. Voilà. Non, la principale, c'est culture, colza,
oui, maïs,
blé,
céréales.
Voilà.
Enfin, voilà,
oui, oui. Alors, donc, cette commune ne connaît pas de problème, j'imagine.
Oh, il y en a toujours, mais enfin bon, c'est pas des problèmes comme on peut rencontrer dans les grandes villes. Donc
oui.
Non, il y a pas de souci.
Alors je sais que vous avez beaucoup de touristes pour cette église. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir à Yèvre?
C'est surtout des paysages à découvrir puisque nous sommes traversés par la rivière Lausanne qui va se jeter dans le Loir, donc aux environs de Bonneval. Et donc, il y a des parcours de pêche et on a aussi beaucoup de chemins de randonnée. Même si les chemins ne sont pas tous balisés, les gens peuvent se promener de façon très libre dans toute la campagne yévroise.
Oui. Et vous avez des maisons d'hôtes aussi?
Non, pratiquement pas. Non. On a un projet sur la commune, mais pour l'instant, qui reste à l'état de projet. Voilà.
Oui. Vous voudriez avoir...
Peut-être des gîtes pour recevoir
gîte.
du tourisme, parce
oui,
que le tourisme, ce qu'on appelle le tourisme vert, se développe de plus en plus,
oui.
Donc à la fois pour les randonneurs à pied, les randonneurs à vélo, et peut-être même aussi pour certains pour les chevaux, etc.
Mais bon. Oui, parce qu'on commence, là, il y a un rallye bientôt dans le Perche, chevaux, vélos.
Ouais. Donc nous, on est vraiment à la limite Beauce-et-Perche, hein, de toute façon.
Oui, c'est donc, ça, voilà. Vous êtes à la limite,
oui.
Et donc pour aller chez vous, il faut passer par Bonneval en général.
Non, pas spécialement. Parce que bon, on est à 20 km de Bonneval, mais bon, on est à 40 km de Chartres, 28-30 km de Châteaudun.
Entre Nogent.
30 km de Nogent.
Voilà.
Comme je disais tout à l'heure, nous sommes au centre du triangle.
Voilà, très honorifique, le centre. Alors justement, peut-être vous pouvez nous faire visiter votre église, qui est considérée en fait comme une des plus belles églises rurales de l'Eure-et-Loir.
C'est un des... Bon, il va falloir couper parce que ça y est, j'ai bafouillé.
continue.
Donc, c'est un des architectes des bâtiments de France qui nous y disait, quand il y a eu les travaux, qui considérait Yèves comme étant une des plus belles églises rurales du département. Voilà. Oui. Avec son clocher de 52 mètres qui se voit très très loin, son fameux clocher penché qui maintenant ne penche pratiquement plus parce qu'il a été changé.
Alors quand est-ce qu'on commence à parler de Yèves dans l'histoire ?
Alors l'église est mentionnée donc dès l'an 1100 comme appartenant à l'abbaye des Saints-Pères de Chartres. Donc elle est d'origine romane, donc il ne reste que quelques vestiges au niveau de l'abside. Ensuite, au XVe, XVIe et XVIIe siècle, elle a fait l'objet d'une vaste campagne de restauration avec un doublement de sa capacité d'accueil puisqu'on peut accueillir plus de 500 personnes assises dans cette église.
Ah oui.
D'ailleurs, c'est une des premières impressions que quand les gens rentrent, c'est vraiment monumental. C'est cet espace qui est très grand.
Et vous avez la messe
Alors, pratiquement, il n'y a plus qu'une seule messe par an à l'occasion du pèlerinage franco-allié, puisque donc on dépend du diocèse, de la paroisse de Brou, donc avec qui a une quinzaine de communes qui sont dans cette paroisse. Donc les offices sont très rares, mis à part malheureusement les enterrements. Et puis bon, quand il y a quand même quelques mariages, mais par exemple les baptêmes ne sont pratiquement plus à Yèves. Voilà.
Ah oui. Voilà. Et vous donnez des concerts parfois?
Alors, de temps en temps, depuis quelques années, nous avons un concert de printemps au mois de mai, et on essaie d'en avoir un autre au mois de septembre.
Oui.
Donc, concert varié. Depuis quelques années, c'est essentiellement l'harmonie de Brou qui vient donner un concert au printemps avec une autre harmonie invitée.
Oui.
Voilà. Mais nous avons eu des jolis concerts à l'intérieur.
Oui.
Parce qu'il y a une très bonne acoustique, en plus.
Ah oui, puis c'est une belle église Donc, au moins chaque année, il y a deux concerts.
Ah oui, oui, un à deux concerts tous les ans. Il n'y a pas de problème.
Et il y a un président de l'association qui...
Non, c'est la commune qui organise, de toute façon.
C'est la commune qui organise. Oui, oui. Donc, c'est vous qui êtes...
Qui est officier pour prendre contact avec les artistes.
Oui.
Bon, des fois, on a du mal un peu, mais enfin, bon.
Oui, vous y arrivez. Alors, on disait que cette église avait été mentionnée donc en 1100 comme appartenant à l'abbaye Saint-Père de Chartres. Mmh. Et comment ça s'est passé au cours des âges ?
Eh bien donc, il y a eu les restaurations, l'agrandissement au XVe et XVIIe siècle. Et après, bon, il y a sûrement eu des petits travaux qui ont été faits, mais pas trop trop importants. Mais les travaux de restauration ont été entrepris en 2011, parce que là, il y avait vraiment gros à faire. Et donc, avec des gargouilles qui ont été rajoutées, des piliers, etc. Et il y a eu aussi le clocher dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, lui, avait été restauré en 2006, parce que lui, il menaçait donc de... peut-être pas vraiment de tomber, mais il penchait fortement. Et il y avait effectivement, du côté ouest, des infiltrations d'eau importantes.
Ah oui. Voilà. Eh bien, si vous le voulez, entrons dans cette église. Alors d'abord, la porte d'entrée.
Alors, la porte d'entrée... c'est une porte de style Renaissance, avec des sculptures qui ont un peu subi les outrages du temps. Et quand on rentre, on passe sous une tribune où il y a quatre statues en bois du XVIIe siècle, donc une statue de la Vierge, une Pietà et des statues de Saint-Michel et de Saint-Jean.
Est-ce qu'on sait qui a...
Non, pas du tout. Ces statues artistes inconnus.
Elles sont en quoi ?
Elles sont en bois, hein, mais alors on n'a pas... Elles sont du XVIIe, on sait qu'elles sont du XVIIe et ça s'arrête là.
Ah oui. Façon.
Alors, je vais vous donner quand même des indications sur les... Je vais parler de l'étendue de cette église. La nef fait un total de 22 mètres en largeur pour 36 mètres de long.
Ah oui.
Donc c'est vraiment très 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 important.
Ah oui, c'est vraiment une très grande église.
Oui oui.
Et alors, comment ont été faits les soubassements de cette église ?
Alors, les soubassements, à l'époque originale, il y avait le cimetière qui entourait
partout.
L'église comme
ouais.
Partout. Et quand il y a eu la déviation d'Yèves qui a été faite, il y a eu un décaissement de façon à pouvoir passer plus facilement au niveau de la place.
Ça s'est passé en quelle année ?
En 1863.
Oui.
Et donc, ça a permis de faire la fameuse déviation Brou-Châteaudun, et avec donc la construction du nouveau pont, le pont actuel qu'il y a actuellement, qui enjambe Lausanne. Voilà. Et à l'époque, ça avait fait déjà beaucoup de remous dans la population, parce que les gens disaient, oui, il ne va plus passer personne en centre-ville, ça va être la mort du commerce local, etc. Et là, je parle, on était en 1863.
Ah,
donc, finalement, des problèmes qu'on peut rencontrer aujourd'hui, on les avait déjà à cette époque-là.
Oui. Alors, nous avons donc franchi le porche, et on voit, je crois, apparaître de chaque côté de la porte des bénitiers. Alors, parlez-nous de ces bénitiers.
Bah, les bénitiers, alors, quand vous parlez du porche, ça, c'est le petit porche, c'est ce qu'on appelle le chapitério. Parce que tout à l'heure, je parlais de la grande porte Renaissance,
oui.
qui est la porte principale, mais il y a aussi une porte adjacente sur le côté ouest, qu'on appelle le chapitério ou le cactoir, où les gens se retrouvaient pour discuter. Et quand il y a eu des travaux de restauration qui ont été faits donc en 2011, les ouvriers ont découvert des bénitiers extérieur.
Ah oui.
Voilà, c'est assez particulier.
Et en pierre
ils sont en pierre et ils étaient cachés derrière un revêtement. Ça a été un peu une surprise.
Et alors, ils sont de quelle époque, ces bénitiers?
On ne sait pas, on ne sait pas du tout. Bon, bah, sûrement 16e, 17e, sûrement, puisqu'ils étaient au niveau de l'agrandissement. Donc, c'est à cette époque-là quand ça a été agrandi, de toute façon.
Ah oui. Voilà. Alors, on voit tout de suite les piliers du porche quand on entre. Mmh. Et comment ils étaient recouverts? Parlez-moi de cette couverture de ces piliers.
De ce petit porche-là.
Oui.
Alors, ils étaient recouverts avec des planches en bois, et on pensait qu'il n'y avait rien dessous. Et finalement, sur ce petit chapitério, il y avait des colonnes qui étaient légèrement sculptées, et ça a été très original et surprenant de les retrouver. Donc aujourd'hui, elles sont à l'air libre, et puis voilà, on est très contents.
Et en quelle année vous avez fait ces travaux-là?
C'était en 2011. C'est les derniers travaux qui ont été faits à l'église.
Donc à chaque période de travaux, il y a eu des découvertes.
Bah, bien sûr, on trouve toujours quelque chose, de toute façon.
Oui, c'est ça. Alors, les murs aussi ont été refaits. Mais je crois qu'ils étaient en colombage, c'est ça?
Oui. Et donc là, ils ont été refaits avec de la bauge, donc par des ouvriers professionnels qui font de la restauration. Et donc, ils ont été recouverts de bauge. Et il y a aussi le bauge, c'est le mot générique, mais autrement, on appelle ça aussi du torchis, qui est un mélange de paille et d'argile. Et il y a aussi la voûte intérieure du porche, qui, elle, était en plâtre, on ne sait pas trop pourquoi, qui, là, était faite donc en lambris de châtaignier.
Oui. Et alors, j'ai vu que les portes, je crois, étaient rouges.
Oui, alors, les portes du chapitério, ils sont rouges. La porte principale, la porte Renaissance tout à l'heure que je parlais, elle est en ocre jaune. Et ça, ces peintures ont été faites à l'ancienne à partir de farine de blé, avec une garantie de 40 ans. Je ne suis pas très sûr qu'elles durent vraiment 40 ans. Mais enfin, elles ont été faites à l'ancienne. Voilà.
Et là, elles ont été faites quand, alors?
Ben, 2011 aussi.
2011.
Oui, tous ces travaux ont été faits en 2011.
Oui, 2011.
Oui, oui.
Donc là, déjà, comment vous trouvez les peintures aujourd'hui? En 2018, ça fait déjà quand même.
Oui, mais justement, c'est pour ça que je vous dis, je suis pas sûr qu'elles durent 40 ans quand même, parce qu'elles elles subissent un peu les outrages du temps quand même.
Ah,
l'humidité,
oui.
L'eau.
Elles sont moins jaunes qu'auparavant.
Ça commence à s'écailler un petit peu.
Oui. Alors, les soubassements aussi de l'église, comment sont-ils?
Ben, les soubassements, ils sont en pierre, hein, en pierre de la région, de toute façon. Et donc, ces soubassements ont été découverts quand le cimetière a été déplacé au niveau du cimetière actuel. Et donc là, on a retrouvé des soubassements, donc pierre, grison, etc. De toute façon, voilà.
Alors ensuite, il y a une porte dite la porte des morts. Qu'est-ce que c'est que cette porte?
Alors cette porte, on n'a pas beaucoup, beaucoup d'indications sur cette porte. Elle est petite, donc elle était au niveau donc des soubassements. Alors, est-ce que c'était pour faire passer les cercueils? On ne sait pas. Est-ce qu'elle servait peut-être comme entrée pour des seigneurs de Dièvre qui existaient à l'époque? On ne sait pas. On n'a pas vraiment d'indication. Mais c'est vraiment tout petit.
Et alors ça, c'était réservé en fait aux familles des fondateurs.
Ben, on disait oui, les fondateurs de l'Église, mais là, on n'a pas d'indication particulière.
Hein, et vous connaissez les noms?
Non, ben, c'était la famille Mété, mais bon, sans indication supplémentaire. Hein. Faut pas s'étendre là-dessus, parce que là, je ne pourrais pas vous en dire plus. Hein.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec Pierre Lucas, qui est adjoint au maire d'Yèvre. Il a évoqué dans une première partie ce village d'Yèvre et puis également l'église. Donc nous sommes entrés dans l'église, une très belle église avec un très beau coq. Nous n'en avons pas encore parlé, mais je crois que ça va être pour maintenant. Alors, Pierre Lucas, nous en étions très précisément aux vitraux de gauche dans l'église. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Mais peut-être alors, j'évoquais aussi le clocher et le coq, et j'aimerais peut-être que vous en disiez quelques mots alors, auparavant.
On va revenir un tout petit peu en arrière. Donc oui. Le clocher a été restauré en 2006, et donc un nouveau coq a été installé donc à 52 mètres de hauteur, après une belle cérémonie, donc le 24 juin 2006.
Vous y étiez, bien sûr.
Bien sûr, j'ai même eu l'occasion de monter plusieurs fois pendant les travaux jusqu'en haut du clocher.
Ah oui, 54 mètres.
52 mètres. Et donc l'ancien coq, qui datait de 1687, avait reçu quelques balles de carabine. Il était un peu usagé, il avait des trous dans son plumage. Donc maintenant, il a été descendu et il trône dans la salle d'accueil de la mairie maintenant.
Très bien. Voilà. Il est de quelle couleur?
C'est du cuivre. Hein, c'est du cuivre. Voilà, donc il est un peu verdi.
Un peu vert de gris.
Oui, vert de gris, voilà.
Maintenant, nous sommes entrés dans l'église et il y a des vitraux de gauche qui sont absolument superbes.
Alors, vous allez un tout petit peu vite parce que avant de parler des vitraux, j'aimerais vous parler de la chapelle des fonts baptismaux.
Très bien.
Puisque alors, c'est elle qui se trouve tout de suite, quand on rentre dans le grand porche, tout de suite à la gauche. Donc, les fonts baptismaux, ils sont très particuliers parce qu'ils sont dans une chapelle à part qui est donc avec une porte qui est due à Charles Roscoué parce qu'elle est d'inspiration bretonne. Charles Roscoué, on peut en parler parce que c'est un ébéniste sculpteur qui a beaucoup travaillé sur l'église d'Yèvre et on en parlera tout à l'heure avec la chaire. Mais la chapelle des fonts baptismaux, elle, est très importante au niveau de sa porte puisque les vantaux sont sculptés sur leur partie inférieure et représentent l'un le baptême du Christ et l'autre le martyr de Sainte-Barbe. Et on voit très bien Sainte-Barbe qui s'était convertie au christianisme contre l'avis de son père. Et comme elle avait refusé d'abjurer sa foi, elle est torturée et décapitée par son mère, son père, ce qu'on voit d'ailleurs très bien sur la porte. Il faut savoir que donc Sainte-Barbe est la patronne de toutes les corporations liées au feu, donc pompiers, artificiers, artilleurs et métallurgistes. Voilà. Donc, autrement, les fonts baptismaux, ils datent de fin 17e. Autrement, il n'y a rien de particulier, les armoires des Saintes Huiles, etc. Donc, voilà. Mais c'est surtout la porte qui est d'inspiration bretonne qui est très, très importante.
Oui, très belle.
Voilà. Donc, maintenant, vous vouliez savoir les vitraux. Donc, les vitraux, nous sommes là, donc, dans les vitraux de la partie gauche. Et ce sont des vitraux, le premier, donc, qui est à côté des fonts baptismaux, qui est un don des paroissiens d'Yèvre à la mémoire des deux aviateurs alliés, le lieutenant Stock et le sergent Wilding, dont l'avion s'est écrasé le 28 juillet 1944 sur la commune d'Yèvre, au hameau du Menard, en évitant le bourg. Et donc les tombes de ces deux aviateurs sont dans le cimetière d'Yèvre. Et tous les ans, il y a une importante cérémonie donc franco-alliée avec autorité civile et militaire qui a lieu le premier dimanche de octobre. Avec donc des gens qui viennent, des familles qui viennent soit d'Angleterre ou même de Nouvelle-Zélande puisque le pilote de l'avion, le lieutenant Stock, était néo-zélandais.
Ah oui.
Nous les recevons régulièrement et ils ont tous envie de revenir l'année prochaine. Donc même une partie des familles des occupants, des autres occupants donc de l'avion, qui vont également faire le voyage pour le 75e anniversaire.
Donc pour vous, c'est une fête importante.
C'est une cérémonie très 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 importante et ça, tout le village y est très attaché.
Voilà. Ah oui, donc c'est une date importante.
Très importante. Donc le pommeau vitrail, lui, il est à la gloire de ses aviateurs. Et ensuite, nous avons quatre vitraux qui évoquent la Première Guerre mondiale, où sont inscrits plus de 80 noms des Yévrois morts au cours des combats.
Et qui a fait ces vitraux ?
Et donc ces vitraux, ils viennent des ateliers Champignol de Paris et des ateliers Lorrain de Chartres,
oui,
entre 1921 et 1929.
Oui.
Mais ce qui est très important, c'est que c'est assez rare que les noms des morts soient sur le vitrail. Souvent, ils sont inscrits sur le mur, sur une plaque en marbre. Donc là, ils sont incrustés dans le vitrail.
Oui.
Et donc, parmi ces vitraux, il y en a un qui est assez remarquable par la reproduction du champ de bataille, des blessés et des morts et des tranchées. Vraiment un tableau qui est même presque, on pourrait dire, moderne, qui est très réaliste. Ensuite, je pense qu'on va aller un petit peu plus lourd en montant cette visite, puisqu'on va arriver à l'hôtel Saint-Joseph.
Oui.
Saint-Joseph avec différentes statues, dont une très particulière, qui est le Joseph et l'enfant Jésus. Et donc Joseph tient dans ses bras l'enfant Jésus. C'est un bois du 18e.
C'est un bois.
C'est en bois du 18e siècle. Et c'est assez rare que Joseph tienne son enfant, donc l'enfant Jésus,
oui,
dans ses bras.
D'habitude, c'est toujours
Marie.
Toujours
avec Marie. Et là, c'est Joseph qui l'a dans les bras.
Et on sait qui a été le sculpteur ?
Pas du tout.
Non.
Comme beaucoup de choses. Alors, on suppose qu'il y avait donc Roscoué, mais là, c'est pas vraiment la même date. Donc, c'est peut-être des ouvriers qui ont travaillé avec Roscoué à une époque, peut-être, mais ça, c'est pas sûr. C'est ça le problème, c'est que souvent, les artistes ne signaient pas leurs œuvres.
Non.
En fait, cette statue est quand même très, très belle, elle est très particulière.
Mais alors, c'est une magnifique église, elle est fermée à clé, j'imagine.
Ah, bien sûr, c'est ça le problème, c'est qu'on voit souvent des gens qui sont autour, et donc elle est fermée. Alors, si vous voulez des visites, il faut s'adresser à la mairie, naturellement, et soit moi-même ou d'autres personnes, on peut exceptionnellement.
Oui, ça c'est bon de le dire à nos auditeurs parce que.
Oui,
c'est...
alors si vous êtes un groupe de 10, 20, 30 personnes, il n'y a aucun problème. Après, des visites individuelles, c'est un petit peu plus délicat à mettre en place, mais en prenant des groupes, il n'y a pas de souci.
Donc, très belle sculpture. Et nous en arrivons au cœur.
Au cœur et le maître-autel. Donc avec un retable tout à fait qui est architecturé en bois à trois pans, avec des colonnes torses ornées de pampres à chapiteaux corinthiens. Et à gauche du retable, nous avons une statue de Saint Constance, qui est un bois polychrome. Et Saint Constance, on peut le retrouver au niveau du reliquaire. Alors là, je vais un petit peu plus loin dans la visite, parce que ce reliquaire que nous avons dans l'église date du XVIIe siècle, et c'est une châsse dorée qui contient donc les reliques de Saint Constance, qui était évêque de Pérouse.
Mais comment se fait-il que vous ayez toutes ces...
Ah, ça, c'est une belle histoire.
Toutes ces richesses dans cette
église. Donc, ce reliquaire a été donné à l'église d'Yèvre le 16 septembre 1678 par l'un des seigneurs d'Yèvre, Cyprien Bénard de Rézé, conseiller du roi et intendant des finances, avec l'approbation de Mgr Ferdinand de Neuville de Villeroy, évêque de Chartres. Alors, Mgr Ferdinand de Neuville de Villeroy, on avait un tableau dans la sacristie qu'il représentait. Et ce tableau était en mauvais état. Il a été restauré avec l'aide de la Fondation du patrimoine et par souscription en 2009, et ainsi que son cadre en 2010. Donc cet évêque de Chartres de 1657 à 1690 était né à Rome en 1608. Et le tableau, lui, est arrivé à Yèvre en 1968, après la visite du professeur Lemal, qui avait rencontré l'abbé Lérétrif, qui était le dernier curé d'Yèvre. Devant le reliquaire de Saint-Constance, qui était donné à l'église d'Yèvre par cet évêque, donc Mgr de Neuville de Villeroy, le professeur déclara connaître ce tableau qui était chez le comte de Zoguèb à Montfort-l'Amaury, qui l'avait déposé entre-temps chez son voisin et ami, le compositeur Maurice Ravel, le fameux boléro de Ravel.
Oui.
La maison du compositeur, aménagée en musée en 1937, avait toujours le tableau, et il fut décidé de le donner au diocèse de Chartres, qui, lui, l'avait donné à l'église d'Yèvre.
Mais l'église d'Yèvre a beaucoup de chance.
On a de la chance.
Oui, parce que vraiment, des trésors.
Oui, absolument. Alors, pour en revenir au chœur et maître-autel, nous avons différentes statues, ou petites statues, dont une de Sainte Apolline, qui est une martyre qui avait eu la mâchoire cassée, et elle est invoquée contre les maux de dents. Oui.
Alors ça, Sainte Apolline, on la trouve dans toutes les églises rurales.
Ah oui, on doit la trouver partout, de toute façon.
Oui, oui.
Autrement, quand on poursuit la visite, nous arrivons à un beau lutrin, qui est en bois polychrome du 18e et qui lui représente le combat de l'aigle et du serpent. Il est absolument magnifique. Ensuite, nous avons l'autel de la Vierge, avec, donc là, une statue de Saint Jovin. Et Saint Jovin, on a eu beaucoup de mal parce que personne ne le connaissait. J'ai fait des recherches il y a peu sur Internet, où je suis arrivé à découvrir que Saint Jovin correspondrait à Saint Jawa, qui serait né en Grande-Bretagne vers l'an 500.
Ah.
On n'en est pas totalement sûr, mais c'est la seule corrélation qu'il y a entre Jovin et Jawa. Et qui était donc venu de Grande-Bretagne en Armorique, ou la Petite-Bretagne, naturellement, ou la Bretagne d'aujourd'hui. Et donc avec des compagnons qui débarquèrent d'abord à Ouessant et qui vinrent sur le continent. Et donc Jawa, surnommé l'ermite, s'installa dans un lieu à l'écart aujourd'hui appelé Kerber en Lampol, Ploudal Mezo. C'est à ce moment qu'aurait eu lieu l'histoire légendée du buffle sauvage, etc. Enfin, ça, je vais en passer parce que là, on pourrait y passer des heures.
Mais c'est une grande visite.
On peut penser que Jawa vint probablement jusqu'à Plouvien, où il fit construire deux monastères. Alors, quand on sait que Charles Roscoué était, lui, né à Saint-Égonnec, on en parlera un petit peu plus tard, donc on pense qu'il y a une relation bretonne avec cette statuette de Saint-Jovin.
Ah oui.
Nous avons... sur la droite, maintenant, quand on redescend, une série de vitraux qui, eux, sont tous du XXe siècle, dont une très belle Vierge à l'enfant et Jeanne d'Arc en hommage aux victimes de la Première Guerre. Toujours des ateliers lorrains, et qui est particulièrement dédié à l'abbé Feuzard, tué à la guerre de 14-18, et qui était natif d'Yèvre.
Ah oui.
Il y a également une présentation de la Vierge au Temple avec des petits médaillons avec la religieuse Pauline Seigneuret qui était également native d'Yèvre, qui est décédée en 1914. Il y a toujours de la famille Seigneuret sur la commune.
Ah oui. Voilà. Alors, moi, je voudrais que nous en arrivions au chapier parce que c'est le grand trésor de cette église. Et vraiment, quand on entre dans cette église Notre-Dame d'Yèvre, on a... tout de suite envie d'aller voir le chapier.
Alors le chapier, on passe souvent à côté. Alors qu'est-ce que c'est qu'un chapier ? C'est un meuble qui contient les vêtements sacerdotaux à plat. S'ils étaient comme dans une penderie, on appellerait ça un chasublier.
Oui.
C'est le fait qu'il soit à plat.
Mais la seule solution pour bien les conserver, qu'il soit à plat.
Absolument, comme ça, il n'y a pas de faux plis, rien du tout. Mmh. Et donc, ce meuble est monumental, avec des tiroirs semi-circulaires, et dont il y a quelques unités en France, mais c'est pas très, 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 très fréquent. C'est relativement rare. Alors, ce chapier conserve donc beaucoup de vêtements.
Vous savez combien
Je ne sais pas. Ils sont tous inventoriés. Je les ai jamais tous vus, malheureusement.
Ah oui, c'est
mais ils sont absolument magnifiques, certains brodés d'or et d'argent, et qui datent essentiellement des 18e et 19e siècles.
Ah oui.
Mais au niveau des monuments historiques, c'est surtout ceux qui ont été fabriqués avec des vêtements de cour ou des vêtements des seigneurs, souvent les dames, et qui ont servi, qui ont le plus de valeur au niveau du patrimoine, parce qu'ils représentent des vêtements qui ont été déjà portés, qui ont été restaurés, rénovés par des ateliers de Lyon, Rion et Tours.
Et est-ce qu'une fois dans l'année, ils sont exposés ?
Alors, aux journées du patrimoine, on ouvre les tiroirs, mais malheureusement, on ne les expose pas sur des mannequins ou des choses comme ça. C'est ça qui est un petit peu dommage.
Eh bien, écoutez, un grand merci. Je crois que nous aurons tous à cœur d'aller visiter cette église Notre-Dame d'Yèvre et de s'arrêter longuement sur le chapier. Merci à vous. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr.